Hein, c'est l'industrie pétrolière du Texas. Et vous savez comme moi que depuis quelque temps, on se pose des questions à propos du pétrole comme du gaz. Les réserves sont-elles aussi importantes qu'on le dit? Est-ce que des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, entre autres, ne ment pas sur ces réserves pour maintenir un rôle géostratégique qui ne pourrait plus être le sien? D'autre part, il y a ce fameux pic de Hubert. Hubert, c'était un géologue qui, à la fin des années 40, début des années 50, c'est un géologue américain, il a tout simplement énoncé une théorie qui aujourd'hui paraît aller de soi, c'est que l'histoire de l'extraction du pétrole avait une forme de cloche, c'est-à-dire que dans un premier temps, on extrayait de plus en plus de pétrole des entrailles de la Terre, c'était très facile, il y avait du pétrole partout, il suffisait finalement de creuser des trous et d'aller le chercher, puis ensuite ça se stabilisait, c'était une sorte de plateau, et ensuite fatalement, il y avait un début de déclin de la production, parce qu'il y avait davantage de pétrole extrait que de pétrole qu'on pourrait extraire à l'avenir de la Terre. Et donc, on a employé cette expression de pic de Hubert, du nom de Hubert, pour signifier que tout a une fin, y compris l'extraction de pétrole, et qu'il arriverait un moment fatalement dans l'histoire du pétrole où il ne serait plus abondant comme il avait été, où il serait plus difficile à exploiter, où il serait plus coûteux à exploiter. Alors, il y a des discussions de spécialistes, mais qui sont très intéressantes sur cette question, puisque aujourd'hui, beaucoup d'excellents spécialistes, y compris des géologues, considèrent qu'on est très proche du pic de Hubert, ou peut-être qu'on l'a déjà dépassé. C'est-à-dire que peut-être, malgré les déclarations tonitruantes de tel ou tel, peut-être, au fond, qu'on a extrait plus de pétrole qu'on ne pourra jamais en retirer de la Terre. Et ça, évidemment, ça a une influence directe, enfin directe, pas immédiate, mais en tout cas directe, sur le coût de l'énergie, le coût du pétrole et le coût du gaz, car c'est corrélé, c'est un peu la même histoire. Tout ça pour vous dire que plus ça devient difficile, plus il y a de tensions autour du prix de l'énergie, évidemment, et plus les pétroliers se posent des questions. C'est dans ce contexte-là que l'industrie pétrolière du Texas s'est posée des questions, disons, au tournant du siècle, au tout début du 21e siècle. Et finalement, on a redécouvert ce qu'on savait depuis un siècle et demi, à savoir qu'il y a du gaz et du pétrole dans les schistes. Mais pas un petit peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un ordre de grandeur, hein. Il n'y a aucune estimation fiable définitive sur la question. Mais l'estimation qui circule le plus dans les milieux pétroliers, c'est qu'il pourrait y avoir dans le monde 4 fois plus, écoutez bien, 4 fois plus de gaz, de schiste sur Terre que de gaz conventionnel. Si ces estimations sont vraies, vous comprenez bien que c'est une révolution énergétique. Le pic de Hubert va être retardé de plusieurs dizaines d'années, parce que ça vaut pour le pétrole. Et bien entendu, la carte de l'énergie est redistribuée à l'échelle de toute la planète. Et pour en revenir au point de départ, c'est-à-dire l'industrie pétrolière du Texas, eh bien, au tournant du siècle, cette industrie s'est dit « Bon Dieu, il y a trop d'incertitudes pour nous, il faut relancer d'autres machines, notre vaste machine à produire du gaz et du pétrole. On va s'attaquer au gaz de schiste et au pétrole de schiste, car les prix du pétrole et du gaz conventionnel ayant monté, ça devient potentiellement rentable.
Et aujourd'hui, aux États-Unis, on exploite le gaz de schiste, on distribue
massivement, massivement. Ah. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est absolument certain, ça n'est discuté par personne. Il y a 500 000 puits de forage en activité aux États-Unis de gaz de schiste, simplement pour le gaz de schiste.
Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a 500 000 derrick aussi
Le sol.
Ça veut dire que le paysage américain a complètement changé en quelques années.
Pas tout le pays, mais disons, je crois qu'il y a du gaz de schiste, je dis ça de mémoire, il est exploité actuellement dans 17 États des États-Unis. Les États-Unis, c'est très vaste. Et oui, c'est une révolution énergétique, c'est une révolution du paysage, c'est une atteinte probablement irréversible à la qualité des nappes phréatiques, parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe avec cette fracturation hydraulique. Quand vous injectez de l'eau, il faut d'abord beaucoup d'eau. Vous en avez sur place ou vous la faites venir par des camions-citernes. Aux États-Unis, c'est des camions-citernes. Vous avez donc des norias, des milliers de camions-citernes qui apportent des quantités phénoménales d'eau. Un forage, 15 à 20 millions de litres d'eau. Un forage, 15 à 20 millions de litres d'eau. Et on peut fracturer au même endroit plusieurs fois. Donc, c'est des quantités d'eau phénoménales.
On la récupère.
Vraisemblablement, on peut en récupérer, on va dire, la moitié. C'est pas sûr, mais ça tourne autour de ça. Autrement dit, il y a une partie considérable de cette eau qui reste dans le sous-sol, dans un sous-sol qui a été fracturé, explosé. par le traitement par fracturation hydraulique, la pression de l'eau chargée de produits chimiques, le sol est exposé, c'est des mini-séismes. Il faut bien comprendre, je pèse le sens de mes paroles, il s'agit de mini-séismes qu'on provoque volontairement dans le sous-sol pour fracturer les schistes et pour récupérer le gaz. Donc ce sont des mini-séismes qui pourraient nous garantir que ces mini-séismes n'ouvrent pas de nouvelles lignes, de nouvelles fractures dans le sous-sol qui atteindront un moment ou un autre les nappes phréatiques. Personne, bien entendu, et c'est tellement vrai que dans de nombreux cas aux États-Unis et au Québec, puisque on est